Voir Ershadi. Il y avait plus d'un an que je faisais partie de la compagnie. Je rêvais de danser pour ce chorégraphe depuis la première fois où j'avais vu son travail, et pendant une décennie je n'avais aspiré qu'à y parvenir. J'avais fait tous les sacrifices nécessaires au cours de ces années d'entraînement rigoureux. Le jour où j'ai enfin auditionné et où il m'a invité à intégrer sa compagnie, j'ai tout abandonné et me suis envolé pour Tel Aviv. Nous répétions de midi à 17h et je me consacrais, m'appliquais sans réserve à la méthode et à la vision du chorégraphe. Parfois montaient des larmes soudaines, jaillies d'un puits qui s'était brusquement ouvert. Quand je rencontrais des gens dans les bars et les cafés, je leur parlais avec exaltation de mon expérience de travail avec le chorégraphe et leur disais que je me sentais constamment au bord d'une découverte. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'étais devenu fanatique, que ce que je prenais pour du dévouement avait basculé vers autre chose et, bien que cette prise de conscience altéra ce qui était jusque-là une joie sans mélange, je ne savais qu'en faire. Épuisé après les répétitions, je descendais à la mer ou rentrais chez moi regarder un film jusqu'à ce qu'il fût l'heure de sortir et de retrouver des amis. Je ne pouvais me rendre à la plage aussi souvent que je le souhaitais, le chorégraphe ayant dit qu'il voulait que la peau de tout notre corps fut aussi blanche que celle de nos fesses. J'avais contracté une tendinite à la cheville, ce qui m'obligeait à y appliquer de la glace après l'entraînement, si bien que je me suis retrouvé à regarder une foule de films, allongé sur le dos, le pied surélevé. J'ai vu tous ceux avec Jean-Louis Trintignant, jusqu'au jour où il m'a paru si vieux que l'imminence de sa mort est devenue trop déprimante. Je me suis alors tourné vers Louis Garrel, assez beau pour vivre éternellement. Parfois, quand elle ne travaillait pas, mon ami Rumi venait regarder les films avec moi. Quand je n'eus fini avec Garrel, l'hiver était là et il n'était de toute façon plus question de nager, j'ai donc passé 2 semaines enfermé avec Ingmar Bergman. Au nouvel an, j'ai décidé d'abandonner Bergman et l'herbe que je fumais tous les soirs, et parce que le titre me plaisait et que le film avait été tourné loin de la Suède, j'ai téléchargé Le goût de la cerise du réalisateur iranien Abbas Kiarostami. Il s'ouvre sur le visage de l'acteur Homayoun Ershadi. L'acteur incarne M. Badi, un homme d'une 50aine d'années qui parcourt lentement les rues de Téhéran au volant de sa voiture en quête de quelqu'un, scrutant du regard des groupes d'hommes réclamant à corps et à cri un emploi. Ne trouvant pas ce qu'il cherche, il se rend dans les collines arides qui entourent la ville. Lorsqu'il voit un homme au bord de la route, il ralentit et lui propose un tour en voiture. L'homme refuse et quand Badi s'obstine à vouloir le convaincre, l'homme se met en colère et s'en va d'un pas furieux en lui jetant des regards noirs par-dessus son épaule. Après avoir continué de rouler pendant 5 ou 7 minutes, une éternité dans un film, un jeune soldat apparaît qui fait du stop sur le bas-côté de la route et Badi lui propose de le conduire à sa caserne. Il se met à questionner le jeune homme sur sa vie à l'armée et sur sa famille au Kurdistan, et plus les questions se font personnelles et directes, plus la situation devient embarrassante pour le soldat qui commence à se tortiller sur son siège. 20aine de minutes après le début du film, Badi se décide enfin à parler. Il est à la recherche de quelqu'un qui accepte de l'enterrer. Il a lui-même creusé sa tombe au flanc de l'une de ses collines desséchées et, ce soir, projette d'avaler des comprimés et de s'y coucher. Tout ce dont il a besoin, c'est que quelqu'un vienne le lendemain matin vérifier qu'il est bien mort, puis le recouvre de 20 pelletées de terre. Le soldat ouvre la portière, descend d'un bond et s'enfuit dans les hauteurs. Ce que demande M. Badi revient à se faire le complice d'un crime, puisque le suicide est interdit par le Coran. La caméra suit le soldat de plus en plus petit et finit par disparaître complètement dans le paysage, puis elle revient vers le visage extraordinaire d'Ershadi, un visage qui reste presque complètement neutre d'un bout à l'autre du film et réussit pourtant à exprimer une gravité et une profondeur de sentiments qui ne peuvent absolument pas venir du simple jeu de l'acteur mais d'une intime connaissance de ce que signifie être poussé au bord du désespoir. Pas une fois le film ne nous apprend quoi que ce soit sur la vie de M. Badi ou sur ce qui pourrait l'avoir décidé à y mettre fin. Pas plus que nous ne voyons son désespoir. Tout ce que nous savons de la profondeur de son être, nous le tenons de son visage sans expression, qui nous parle également de la profondeur de l'acteur Homayoun Ershadi, dont la vie nous est encore plus énigmatique. J'ai effectué une recherche et découvert qu'Ershadi était architecte, Sans aucune formation ni expérience d'acteur, lorsque Kiarostami l'avait vu assis dans sa voiture en plein embouteillage, perdu dans ses pensées, et avait frappé à sa vitre. Il était facile de comprendre, juste en le regardant, que le monde semblait se pencher vers Ershadi, comme s'il avait davantage besoin de lui qu'Ershadi n'avait besoin du monde. Son visage m'a touché. Disons que c'est plutôt le film, avec sa compassion et sa fin bouleversante, que je ne dévoilerai pas, qui m'a touché. Mais on peut dire aussi qu'en un sens, le film, c'était uniquement son visage et ses collines désolées. Peu de temps après, la chaleur est revenue. Quand j'ouvrais les fenêtres, m'arrivait l'odeur des chats, en même temps que celle du soleil, du sel et des oranges. Le long des larges avenues, les ficus verdissaient. J'aurais aimé extraire quelque chose de ce renouveau, en faire tant soit peu partie, mais en vérité, mon corps était de plus en plus mal fichu, ma cheville était de plus en plus douloureuse à force de danser dessus, et j'avalais une boîte entière d'Advil par semaine. Lorsqu'il a été temps pour la compagnie de repartir en tournée, je n'avais pas envie de la suivre, même si c'était au Japon, que j'avais toujours rêvé de visiter. Ce que je voulais, c'était rester là, me reposer et sentir le soleil, m'allonger sur la plage avec Romy, fumer et parler des garçons, mais j'ai fait ma valise et me suis rendu à l'aéroport avec deux autres danseurs. Nous avons donné 3 représentations à Tokyo, suivies par 2 jours de congé, et avons décidé à plusieurs d'aller à Kyoto. C'était encore l'hiver au Japon. Du train de Tokyo, on voyait défiler les lourds toits de tuiles et les maisons aux fenêtres exiguës. Nous avons trouvé un ryokan où loger, avec une chambre décorée de tatami, de panneaux shoji et de murs de la couleur et de la texture du sable. Tout me paraissait incompréhensible, je faisais sans cesse des erreurs. Je traversais la chambre avec, aux pieds, les chaussons strictement réservés à la salle de bain. Lorsque j'ai demandé à la femme qui nous avait servi un dîner très élaboré ce qui arrivait si l'on renversait quelque chose sur le tatami, elle a hurlé de rire. Si elle avait pu tomber de son siège, elle l'aurait fait, seulement la pièce n'en contenait aucun. Au lieu de cela, elle a fourré l'emballage de ma serviette chaude dans la large manche de son kimono, mais d'un geste si élégant qu'on en oubliait facilement qu'elle se débarrassait en réalité d'un détritus. Le matin du dernier jour, je me suis levé de bonne heure et je suis sorti muni d'une carte sur laquelle j'avais marqué les temples que je voulais visiter. Tout était encore à nu. Même les pruniers n'étaient toujours pas en fleurs, il n'y avait donc rien pour attirer les hordes avec leurs appareils photos, et je m'étais habitué à la quasi-solitude des temples et des jardins, tout comme au silence encore épaissi par le croassement bruyant des corbeaux. J'ai donc été très surprise, ayant franchi le portail en bois monumental de Nansen-ji, de tomber sur toute une troupe de japonaises, bavardant joyeusement d'une voix chantante, dans l'allée couverte qui menait à la résidence du grand prêtre. Elles portaient d'élégants kimonos de soie, et tout en elles, des peignes incrustés de décorations, jusqu'à leurs habits froncés et leurs sacs à cordons ornés de motifs, étaient d'un autre âge. La seule exception était leurs chaussons d'un marron terne, comme on en laissait à disposition à l'entrée de chaque temple à Kyoto, tous minuscules et qui me rappelaient les chaussures de Pierre Lapin perdues dans le carré de salade. J'en avais essayé une paire la veille, y enfonçant péniblement les pieds et crispant les orteils pour tenter de glisser sur les parquets de bois lisse, mais après avoir failli me casser la figure en essayant de monter un escalier, j'avais capitulé et m'était mise à parcourir les planchers glacés en chaussettes. Il m'était donc impossible d'avoir chaud et, grelottante sous mon pull et mon manteau, je me demandais comment ces femmes ne gelaient pas dans leurs vêtements de soie et s'il leur fallait de l'aide pour nouer, enrouler et fixer les différentes pièces de leur kimono. Sans m'en apercevoir, je m'étais petit à petit infiltré au cœur du groupe, si bien que, quand les femmes se sont soudain déplacées toutes ensemble, comme en réponse à un signal secret, j'ai été entraîné avec elle le long de la vaste et sombre galerie découverte, porté par le flot de soie et le trottinement pressé des petits chaussons. Environ 6 mètres plus loin, le groupe s'est arrêté et a craché de son corps amiboïde une femme en vêtements de ville qui s'est mise à parler aux autres. En me dressant sur la pointe des pieds, j'arrivais tout juste à voir, au-dessus de la tête des femmes, le jardin zen vieux de 400 ans, l'un des plus célèbres de tout le Japon. Un jardin zen, avec son gravier ratissé et son nombre restreint de rochers, d'arbustes et d'arbres, n'est pas fait pour être parcouru, mais contemplé de l'extérieur, et juste au-delà de l'endroit où s'était arrêté le groupe, trônait le portique vide conçu à cet effet. Toutefois, quand j'ai essayé de sortir en tapotant des épaules et en m'excusant, le groupe m'a paru seulement se resserrer autour de moi. Chaque personne sur l'épaule de laquelle je tapais se retournait d'un air étonné et faisait quelques petits pas rapides sur la droite ou la gauche afin de me laisser passer, mais aussitôt, une autre femme en kimono surgissait pour combler le vide, soit de façon instinctive pour rétablir l'équilibre du groupe, soit simplement pour se rapprocher de l'accompagnatrice. Cernée de tous côtés, respirant l'odeur entêtante de parfum et écoutant les explications inexorablement incompréhensibles de la guide, j'ai commencé à éprouver une sensation de claustrophobie. Mais avant que je puisse essayer de me frayer plus brutalement un chemin à coups de coude, la troupe s'est remise en mouvement et, en m'aplatissant contre le mur de la résidence du grand prêtre, j'ai réussi à m'immobiliser, obligeant chaque femme à me contourner. Elles ont traversé le parquet dans un cœur bruissant de chaussons. C'est alors que je l'ai vue qui marchait le long de l'allée couverte dans la direction opposée. Il semblait plus vieux, ses cheveux ondulés s'étaient argentés, ce qui faisait paraître ses sourcils noirs encore plus sévères. Et quelque chose d'autre avait changé. Dans le film, il fallait absolument faire émaner de lui une vigueur physique, ce que Kiarostami avait réussi à faire en maintenant la caméra braquée sur ses larges épaules et sur son torse puissant, tandis qu'Ershadi sillonnait les collines autour de Téhéran au volant de sa voiture. Même lorsqu'il descendait du véhicule pour contempler les collines arides et que la caméra restait en retrait à une certaine distance, il m'était apparu physiquement impressionnant, ce qui lui donnait une autorité, une force qui, combinée à la profondeur de sentiments qu'on lisait dans ses yeux, m'avait amené au bord des larmes. Aujourd'hui, tandis qu'il parcourait l'allée couverte, Ershadi paraissait presque mince. Il avait perdu du poids, mais ce n'était pas seulement cela, on aurait dit que ses épaules s'étaient contractées. Maintenant que je le voyais de dos, je commençais à douter qu'il s'agisse d'Ershadi. Mais juste au moment où la déception se répandait en moi, telle une coulée de béton, l'homme s'est arrêté et s'est retourné, comme si on l'avait appelé. Figé, il regardait derrière lui le jardin zen, où les pierres étaient censées symboliser des tigres bondissant vers un lieu qu'il n'atteindrait jamais. Une lumière douce tombait sur son visage impénétrable. Il était de nouveau là, le bord du désespoir. En cet instant, j'ai été envahi d'un sentiment de tendresse si extrême que je ne peux l'appeler qu'amour. Ershadi a pris le tournant avec grâce. Contrairement à moi, il n'avait aucun mal à se déplacer avec ses chaussons. J'ai entrepris de le suivre, mais une des femmes en kimono est venue me barrer le chemin. Elle faisait de grands gestes en direction du groupe qui scrutait à présent l'intérieur d'une des salles obscures de la résidence du grand prêtre. Je ne parle pas japonais, ai-je expliqué en essayant de la contourner, mais elle continuait à sautiller devant moi, à baragouiner et à désigner de plus en plus obstinément le groupe de visiteuses qui avançait à présent dans la galerie menant au jardin antérieur, avec un frôlement presque imperceptible de tous leurs pieds réunis, comme si des milliers de fourmis les transportaient. « Je ne fais pas partie du groupe », ai-je dit en formant une petite croix de mes deux poignets, comme j'avais vu faire les Japonais lorsqu'ils voulaient signaler que quelque chose n'allait pas, était impossible ou même interdit. « Je m'en allais », ai-je ajouté, en montrant du doigt la sortie avec la même insistance que celle avec laquelle la femme en kimono désignait le groupe. Elle m'a saisi le coude et a essayé de me tirer de force dans la direction opposée. Peut-être avais-je bouleversé le délicat équilibre de l'ensemble, équilibre déterminé par des subtilités que ma qualité d'étrangère je ne serais jamais à même de comprendre. Ou peut-être encore avais-je commis une faute impardonnable en me détachant du groupe. j'ai eu de nouveau conscience d'une ignorance insondable qui, pour moi, restera toujours synonyme de voyage au Japon. Désolé, ai-je dit, il faut vraiment que je m'en aille maintenant. Et, d'un mouvement plus violent que je ne l'avais prévu, je me suis libéré de son étreinte et j'ai gagné la sortie au petit trot. Mais lorsque j'ai tourné le coin de l'allée, toute trace d'Ershadi avait disparu. Le pavillon de l'accueil était vide, à l'exception des chaussures des Japonaises alignées sur les vieilles étagères en bois. J'ai couru au dehors et regardé autour de moi. Les jardins du temple n'étaient habités que par de gros corbeaux qui se sont envolés lourdement à mon passage. Amour, je ne peux l'appeler autrement, aussi différent fut-il de toutes les autres expériences amoureuses que j'avais pu avoir. Ce que je connaissais de l'amour avait toujours découlé du désir, de l'envie d'être transformé ou détourné de mon chemin par une force incontrôlable. Mais dans mon amour pour Ershadi, j'existais à peine au-delà de ce prodigieux sentiment. L'appeler compassion reviendrait à l'assimiler à une forme d'amour divin. Or, ce n'était pas ça, c'était terriblement humain. C'était même un amour animal, celui d'un animal qui a toujours vécu dans un monde incompréhensible, jusqu'au jour où il rencontre un autre animal de son espèce et se rend compte qu'il s'efforçait de comprendre ce qui n'en valait pas la peine. Ça peut sembler bizarre, mais à cet instant, j'ai eu le sentiment que je pouvais sauver Ershadi. Toujours en courant, j'ai franchi le portail en bois monumental et mes pas ont résonné sous son toit. Une crainte a commencé à s'infiltrer en moi, à savoir qu'il projette de se donner la mort de la même façon que le personnage qu'il avait à peine interprété et que j'avais laissé passer la brève occasion qu'il m'avait été donnée d'intervenir. Quand j'ai atteint la rue, celle-ci était déserte. J'ai alors pris la direction du célèbre chemin qui longe l'étroite rivière et me suis mis à courir, avec mon sac qui me battait la cuisse. Que lui aurais-je dit si je l'avais rattrapé? Quelles questions lui aurais-je posées sur la dévotion? Que voulais-je donc être lorsqu'il se retournerait et que son regard tomberait enfin sur moi? Peu importait, car une fois le tournant passé, le chemin était vide, les arbres noirs et dénudés. De retour au ryokan, assis en tailleur sur le tatami, j'ai exploré Internet, mais n'ai trouvé aucune information récente sur Omayun Ershadi, rien qui n'indiquât qu'il voyageait au Japon ou qu'il était mort. Mes doutes n'ont fait que se confirmer pendant le vol de retour à Tel Aviv. L'avion planait au-dessus d'un immense banc de nuages et, plus il s'éloignait du Japon, moins il me semblait probable que ce fût Ershadi que j'avais vu là-bas. Jusqu'au moment où tout cela m'a paru absurde, comme les kimonos, les toilettes japonaises, les convenances et la cérémonie du thé, qui reflètent à Kyoto un inaltérable génie, perdaient tout leur sens avec l'éloignement. Le lendemain de mon arrivée à Tel Aviv, j'ai passé la soirée dans un bar avec Romy. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au Japon, mais sur le ton de la plaisanterie, en tournant en dérision le fait que j'ai cru, fût-ce un seul instant, avoir vu Ershadi et que je l'ai poursuivi. Tandis que je parlais, ses grands yeux s'écarquillaient de plus en plus. Avec le sens dramatique de l'actrice qu'elle est, Romy a porté une main à son cœur et ordonné au serveur de remplir son verre, lui touchant l'épaule de cette façon instinctive qu'elle a d'attirer les autres dans son monde à elle, de les faire tomber sous le charme de son exaltation. Ses yeux rivés aux miens, elle a sorti ses cigarettes de son sac, en a allumé une et a inhalé la fumée. Tendant le bras au-dessus de la table, elle a posé sa main sur la mienne. Puis elle a incliné le menton et exhalé la fumée sans détourner une seule seconde le regard. « Je ne peux pas le croire » a-t-elle fini par dire dans un chuchotement rauque. J'ai vécu exactement la même chose. Je me suis remise à rire. Il arrivait toujours des histoires extravagantes à Romy. Sa vie était balayée par une série continuelle de coïncidences et de signes mystiques. C'était une actrice, pas une artiste, la différence étant qu'au fond d'elle-même, elle était convaincue que rien n'avait de réalité, que tout n'était qu'une espèce de jeu, mais cette croyance était sincère, profonde et vraie, et son amour de la vie immense. En d'autres termes, elle ne vivait pas pour convaincre les autres de quoi que ce soit. Les histoires extravagantes qui lui arrivaient parce qu'elle se livrait à elle et les recherchait, parce qu'elle essayait sans cesse une chose ou une autre, sans trop se soucier du résultat, seulement de l'émotion que cela suscitait et de sa capacité à y faire face. Dans ses films, elle n'était jamais qu'elle-même, son moi étiré d'un côté ou de l'autre par les détails du scénario. Depuis un an que nous étions amis, je ne l'avais jamais vue mentir. « Arrête, lui ai-je dit, tu plaisantes. » Mais comme elle était toujours sérieuse, même lorsqu'elle riait, Romy, sa main agrippant toujours la mienne, s'est lancée dans sa propre histoire à propos d'Ershadi. Elle avait vu le goût de la cerise 5 ou 6 ans plus tôt à Londres. Comme moi, elle avait été profondément émue par le film et le visage d'Ershadi. Perturbée même. Et pourtant, au dernier moment, elle s'était sentie libérée et joyeuse. Oui, le mot « joie » décrirait mieux ce qu'elle avait ressenti sur le chemin entre le cinéma et l'appartement de son père, dans le jour finissant. Celui-ci était en train de mourir d'un cancer et elle vint s'occuper de lui. Ses parents avaient divorcé lorsqu'elle avait 3 ans et, pendant son enfance et son adolescence, son père et elle s'étaient éloignés l'un de l'autre, pour ainsi dire brouillés. Mais après son service militaire, elle avait fait une sorte de dépression et son père était régulièrement venu la voir à l'hôpital. Plus il restait assis à son chevet, plus elle lui pardonnait les choses qu'elle lui reprochait depuis tant d'années. Et à partir de ce moment-là, ils étaient restés très proches. Elle lui avait souvent rendu visite à Londres, où elle avait même suivi brièvement des cours de comédie tout en habitant chez lui, à Bayside Park. Quelques années plus tard, le cancer fut diagnostiqué. S'ensuivit alors une longue bataille qui leur parut d'abord gagnée, jusqu'au jour où il fut clair, sans le moindre doute, qu'elle était perdue. Les médecins lui donnaient 3 mois à vivre. Romy abandonna alors sa vie à Tel Aviv et réintégra l'appartement de son père. Durant les mois où celui-ci commença à se dégrader, elle resta près de lui, ne le quittant que rarement. Il avait décidé de renoncer au traitement toxique qui n'aurait prolongé sa vie que de quelques semaines ou quelques mois. Il souhaitait mourir dignement et en paix, encore que personne ne meure vraiment en paix, car le voyage du corps vers l'extinction de la vie s'accompagne forcément de violence. Ces formes graves et légères de violence formaient le tissu de leurs jours, mais toujours associées à l'humour de son père. Tant qu'il put marcher, il sortait se promener et quand il en fut devenu incapable, il passait de longues heures devant des séries policières et des documentaires sur la nature. En voyant l'expression fascinée de son père à la lueur de la télévision, Romy s'aperçut qu'il s'investissait tout autant qu'avant dans ses histoires, des histoires de meurtres non résolus, d'espions ou sur le pénible combat d'un bousier pour amener sa pelote d'excréments de l'autre côté d'un monticule de terre, alors que son histoire à lui touchait à sa fin. Trop affaibli pour se lever et se rendre aux toilettes la nuit, il essayait tout de même, et Romy l'entendait s'affaler sur le sol. Alors elle le rejoignait, lui prenait délicatement la tête entre ses mains, puis le relevait, car il n'était à présent guère plus lourd qu'un enfant. C'est à peu près à cette époque-là, quand son père devint incapable de parcourir ne serait-ce que la courte distance qui le séparait de la salle de bain, et que l'infirmière présente 24 heures sur 24 devait le jeter sur sa large épaule d'ukrainienne que, sur l'insistance de cette dernière, Romy enfila un jour son manteau et quitta la maison quelques heures pour aller voir un film. Elle ne connaissait rien de ce film, mais avait été attirée par le titre qu'elle avait vu inscrit au fronton du cinéma sur le chemin de l'hôpital. Elle s'assit au fond de la salle presque vide. Il n'était que 5 ou 6 spectateurs, m'a dit Romy, mais contrairement à ce qui se passe lorsque le cinéma est plein et que tout le monde autour de vous disparaît au moment où s'allume l'écran, elle sentait intensément la présence des autres, dont la plupart étaient, eux aussi, venus seuls. Pendant les nombreux passages sans parole du film, où l'on entendait klaxon, des bruits de bulldozers et le rire d'enfants invisibles, ainsi que dans les longs plans fixes sur le visage d'Ershadi, Romy était consciente d'elle-même en train de regarder et des autres qui en faisaient autant. Au moment où elle comprit que M. Badi projetait de mettre fin à ses jours et qu'il cherchait quelqu'un pour l'enterrer le lendemain matin, elle se mit à pleurer. Peu après, une femme se leva et quitta la salle, ce qui apaisa quelque peu Romy, car cela créait un lien tacite entre ceux qui restaient. J'ai écrit que je ne dévoilerai pas la fin du film, mais je vois maintenant que je ne peux y échapper, qu'il me faudra le faire puisque Romy était persuadée que si le film s'était terminé normalement, ce qui nous était arrivé à chacune par la suite n'aurait sans doute pas eu lieu. C'est-à-dire que si, après avoir vraisemblablement avalé les comprimés et enfilé une veste légère pour se protéger du froid, M. Badi s'était juste allongé dans la fosse qu'il avait lui-même creusée et que tout était devenu sombre, tandis que nous aurions observé son visage impassible, regardant la pleine lune apparaître et disparaître derrière les nuages vaporeux, puis, au moment où éclatait un coup de tonnerre dans une obscurité telle qu'on ne le voyait plus du tout, jusqu'à ce qu'un éclair illumine de nouveau l'écran, que s'il avait été là, toujours allongé, les yeux grands ouverts, toujours de ce monde, toujours dans l'attente, comme nous le sommes nous-mêmes, pour être aussitôt replongé dans le noir, jusqu'au nouvel éclair éblouissant, dans lequel on aurait découvert que ses yeux s'étaient enfin refermés, et que si l'écran s'était éteint pour de bon, ne nous laissant baigner que dans le bruit de la pluie, de plus en plus forte, jusqu'au moment où elle se déchaînait puis se calmait, si le film s'était terminé là, comme tout poussait à le croire, alors, a dit Romy, il ne l'aurait peut-être pas obsédé. Mais il ne se termine pas là. En fait, un chant rythmé de soldats en marche se fait entendre, et lentement l'écran s'anime de nouveau. Cette fois, quand le paysage de collines apparaît, c'est le printemps, tout est vert et la séquence granuleuse, décolorée, est tournée au caméscope. Les soldats défilent en formation sur la route sinueuse, dans le coin inférieur gauche de l'écran. Cette nouvelle scène est assez surprenante, mais l'instant d'après, un membre de l'équipe de tournage apparaît, transportant la caméra en direction d'un autre homme qui installe un trépied, puis Ershadi lui-même. Ershadi, que nous venons de voir s'endormir dans sa tombe, entre d'un pas décontracté dans le cadre en tenue d'été. Il sort une cigarette de sa poche de poitrine, l'allume entre ses lèvres et, sans un mot, la tend à Kiarostami qui la prend sans interrompre sa conversation avec le directeur de la photographie, ni même jeter un regard à Ershadi qui, nous le comprenons alors, est connecté à lui de façon purement intuitive. La prise de vue passe à l'ingénieur du son, qui se trouve un peu plus bas sur la colline, accroupi à l'abri du vent, dans les hautes herbes, avec son micro géant. « Vous m'entendez ?» demande une voix désincarnée. Plus bas, le sergent instructeur hésite et arrête de crier. « Bah allez !» fait-il. « Oui, dites à vos gars de rester près de l'arbre et de se reposer. » répond Kiarostami. La séance de tournage est terminée. La dernière phrase du film est prononcée quelques instants après, alors que la trompette mélancolique de Louis Armstrong se met à gémir et que l'on voit les soldats assis qui rient, bavardent et cueillent des fleurs près de l'arbre où gisait M. Badi avec l'espoir du repos éternel, bien que maintenant l'arbre soit couvert de feuilles vertes. « On est ici pour la prise de son, » dit Kiarostami. « Et il n'y a plus que la trompette, énorme, magnifique, plaintive, sans parole. » Romy resta assise pendant le morceau de musique et le générique et, malgré les larmes qui coulaient sur ses joues, elle exultait. Ce n'est que quelque temps après avoir enseveli son père et jeté elle-même la terre dans sa tombe, repoussant son oncle qui tentait de lui arracher la pelle des mains, que Romy se rappela Ershadi. Tant de choses intenses lui étaient arrivées depuis qu'elle était rentrée chez elle au crépuscule, la joie au cœur, qu'elle n'avait guère eu le loisir de repenser au film. Elle était demeurée quelque temps à Londres pour s'occuper des affaires de son père, et alors qu'il ne restait plus rien à faire, que tout était finalisé et définitivement résolu, elle s'attarda plusieurs mois dans l'appartement presque vide. Toutes ses journées, elle les passait à traînasser, apathique, incapable de s'intéresser à quoi que ce soit. La seule chose qui suscitait un désir quelconque chez elle était le sexe. Aussi avait-elle recommencé à voir Marc, un homme avec lequel elle était sortie pendant son année à l'école d'art dramatique. Il était possessif, l'une des raisons pour lesquelles leur relation s'était détériorée. Et maintenant qu'elle avait connu d'autres hommes après leur rupture, il était devenu encore plus jaloux et obsessionnel, la forçant sans cesse à lui dire comment ça se passait avec eux. Mais leur rapport à eux était impétueux et jouissif, et elle les trouvait revigorants après tous ces mois où elle avait eu l'impression de n'avoir plus de corps, où seul existait celui, défaillant, de son père. Le soir, une fois Marc rentré du travail, elle allait chez lui. Dans la chambre aux lumières tamisées, il faisait défiler de la pornographie jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, après quoi il la baisait par derrière, allongée sur le ventre, et il regardait sur son vaste écran télé deux ou trois hommes pénétrant une femme, enfonçant leur bite dans sa chatte, dans son cul et dans sa bouche, tous haletants et gémissant en son surround. Juste avant de jouir, Marc lui donnait une grande claque sur les fesses et s'enfonçait en elle en la traitant de pute, rejouant ainsi une douleur ancienne qui le poussait à croire que la femme qu'il aimait ne lui demeurerait jamais fidèle. Un soir, après cette séance, Marc s'était endormi, les bras autour d'elle, et Romy resta éveillée. Car bien que fatiguée comme elle l'était toujours, elle n'arrivait pas à dormir. Finalement, elle était parvenue peu à peu à se dégager et avait parcouru la chambre à quatre pattes à la recherche de ses sous-vêtements. N'ayant pas envie de rester, pas envie non plus de partir, elle s'était laissée retomber au bord du lit de Marc et, sentant la télécommande sous elle, avait allumé la télévision et surfé sur les chaînes, passant sans s'arrêter sur les histoires de mères éléphants et de colonies d'abeilles qu'elle avait regardées avec son père, sur les affaires non élucidées et les débats de fin de soirée, jusqu'au moment où elle appuya de nouveau sur le bouton et là, emplissant presque l'immense écran, surgit le visage d'Erchadi. L'espace d'un instant, il lui apparut plus vrai que nature dans la pièce sombre, puis elle le perdit de nouveau, ayant laissé son pouce poursuivre sa recherche fébrile, avant de se rendre compte de ce qu'elle voyait. Lorsqu'elle revint en arrière, elle ne le retrouva pas. Il n'y avait rien concernant le cinéma, ni l'Iran, ni Cariostami. Elle resta un moment interdite et perplexe dans l'obscurité, et puis, lentement, une vague de nostalgie la submergea, et elle se mit à rire pour la première fois depuis la mort de son père. Elle sut alors qu'il était temps de rentrer chez elle. Je n'avais d'autre choix que de croire Romy. Son anecdote était si précise qu'elle ne pouvait l'avoir inventée. Il lui arrivait parfois d'exagérer les détails, mais elle le faisait en croyant elle-même à ses exagérations, ce qui la rendait encore plus attachante, parce que cela montrait ce qu'elle était capable de faire avec la matière première que lui offrait la réalité. Pourtant, une fois revenu chez moi et le charme de sa présence évanoui, je suis resté allongé sur mon lit, de plus en plus déprimé, en proie à un sentiment de tristesse et de vide, car non seulement ma rencontre avec Erchadi n'avait rien d'unique, mais, pire encore, à la différence de Romy, je n'avais aucune idée de ce qu'elle signifiait, ni de ce que j'étais censé en faire. Je n'y avais rien compris, je n'en avais rien retiré, racontant mon histoire comme une plaisanterie, me moquant de moi-même. Seul dans le noir, j'ai fondu en larmes. Incapable de supporter plus longtemps les élancements de ma cheville, j'ai avalé une poignée d'Advil dans la salle de bain. Les comprimés se sont mis à batifoler dans mon estomac avec le vin que j'avais bu, et j'ai bientôt été prise de nausée. Agenouillée sur le sol, je vomis dans la cuvette des toilettes. Le lendemain matin, des coups frappés à la porte m'ont réveillé. Romy avait senti que quelque chose n'allait pas et avait essayé de m'appeler, mais je n'avais pas émergé de toute la nuit. Encore un peu abruti, je me suis remise à pleurer. Voyant mon état, elle a pris les choses en main, m'a fait du thé, m'a installé sur le canapé et m'a nettoyé le visage. Elle a saisi ma main, son autre main posée sur sa gorge comme si ma douleur était la sienne, comme si elle sentait et comprenait tout. 2 mois plus tard, J'ai quitté la compagnie et me suis inscrite en troisième cycle à l'université de New York, mais je suis restée à Tel Aviv jusqu'à la fin de l'été et n'ai pris l'avion que quelques jours avant le début du semestre. À ce moment-là, Romy avait rencontré Amir, un chef d'entreprise de 15 ans son aîné, tellement riche qu'il passait une grande partie de son temps à chercher des moyens de distribuer son argent. Il avait courtisé Romy avec la prodigieuse énergie qu'il déployait pour obtenir tout ce qu'il convoitait. Quelques jours avant mon départ, Romy a organisé une fête d'adieu en mon honneur à notre restaurant favori, et tous les danseurs y assistèrent, ainsi que nos amis et la plupart des garçons avec lesquels nous avions couché cette année-là. Amir n'est pas venu parce qu'il était occupé, et le lendemain, Romy est partie pour la Sardaigne sur son yacht. J'ai fait mes bagages toute seule. J'étais triste de m'en aller, me demandant si je n'avais pas commis une erreur. Nous sommes restés un certain temps très proches, Romy et moi. Puis elle s'est mariée, s'en est allée vivre dans le manoir d'Amir, perché sur une falaise au-dessus de la Méditerranée, et elle est tombée enceinte. De mon côté, j'ai travaillé à l'obtention de mon diplôme, me suis éprise, puis déprise 2 ans plus tard. Durant cet intervalle, Romy avait eu 2 enfants et m'envoyait parfois des photos de ses garçons, dont les visages étaient le sien et semblaient n'avoir rien hérité de leur père. Mais nos liens se sont distendus et des années entières ont passé, pendant lesquelles nous n'avons plus du tout communiqué. Un jour, peu après la naissance de ma fille, je passais devant un cinéma de la 12e rue quand j'ai senti le regard de quelqu'un et, me retournant, j'ai vu les yeux d'Ershadi qui me fixaient, depuis l'affiche du film, Le goût de la cerise. Un frisson m'a parcouru le dos. Les projections étaient terminées, mais personne n'avait encore descendu l'affiche. J'ai pris une photo et l'ai envoyée le soir même à Romy, lui rappelant le projet que nous avions fait d'aller à Téhéran, moi avec un nouveau passeport américain sans tampon israélien et elle avec le britannique qu'elle avait grâce à son père, pour nous asseoir dans les cafés et marcher dans les rues ayant servi de cadre à tant de films que nous aimions, pour goûter à la vie de là-bas et nous allonger sur les plages de la mer Caspienne. Nous allions y retrouver Ershadi qui, imaginions-nous, nous inviterait dans l'élégant appartement conçu par lui-même et écouterait nos histoires avant de nous raconter les siennes, tandis que nous boirions du thé noir avec, devant nous, des sommets enneigés de la chaîne de l'Elbourg. Dans ma lettre, je lui ai avoué la raison pour laquelle j'avais pleuré le soir où elle m'avait relaté sa rencontre avec Ershadi. Tôt ou tard, écrivais-je, j'aurais été obligé d'admettre que, tout à mon ambition, je n'avais pas su m'écouter. J'aurais été obligé de réaliser combien j'étais malheureuse et combien mes sentiments vis-à-vis de la danse étaient devenus confus. Mais ce qui avait précipité mes révélations, c'était le désir de capter quelque chose d'Ershadi, de sentir que la réalité s'amplifiait pour moi, comme elle l'avait fait pour elle, que l'autre monde venait jusqu'à moi. Je n'ai reçu aucune réponse pendant des semaines, puis celle-ci est enfin arrivée. Romy s'excusait du retard. « C'était étrange, disait-elle. Cela faisait des années qu'elle n'avait plus pensé à Ershadi quand, 3 mois plus tôt, elle avait décidé de revoir le goût de la cerise. Elle venait de quitter Amir, et les soirs où elle ne parvenait pas à s'endormir dans le nouvel appartement, avec les odeurs et les bruits inhabituels qui montaient de la rue, elle regardait des films. Ce qui l'avait surprise, c'était l'impression tout à fait différente que lui faisait cette fois le personnage d'Ershadi. Alors que dans son souvenir il était passif, presque angélique, elle le découvrait impatient et souvent acrimonieux avec les hommes qu'il côtoyait, manipulateur dans la façon dont il tentait d'obtenir leur accord, jaugeant leur vulnérabilité et usant des arguments les plus persuasifs. Sa concentration sur sa propre détresse et son désir tenace de mener à bien son projet lui parurent égocentriques. Ce qui l'étonna également, car elle n'en avait gardé aucun souvenir, c'étaient les mots qui s'affichaient un instant sur l'écran noir avant le début du film, selon la règle en Iran. « Au nom de Dieu ». Comment cela avait-il pu lui échapper la première fois, se demanda-t-elle. Elle avait évidemment pensé à moi en regardant le film dans l'obscurité, à l'année où nous étions encore si jeunes et parlions sans arrêt des hommes. Combien de temps avons-nous perdu, écrivait-elle, à croire que les choses nous arrivaient comme des cadeaux, par des canaux miraculeux, sous la forme de signes, dans l'amour des hommes, au nom de Dieu, au lieu de les voir pour ce qu'elles étaient, des forces que nous remontions du néant de nos profondeurs. Elle me disait qu'elle avait l'intention d'écrire un film quand elle en trouverait enfin le temps, qui raconterait l'histoire d'une danseuse comme moi. Puis elle me parlait de ses fils qui avaient, semblait-il, besoin d'elle pour tout, de la même façon que les hommes de sa vie avaient toujours eu besoin d'elle pour tout. J'avais de la chance, disait-elle, d'avoir une fille. Puis, comme si elle avait oublié qu'elle était déjà passée à autre chose, comme si nous étions encore assises en face l'une de l'autre, plongées dans l'une de nos conversations sans début, ni milieu ni fin, Romy écrivait que sa dernière surprise avait été de voir que, lorsque Ershadi est allongé dans la tombe qu'il a creusée, que ses yeux finissent par se fermer et que l'écran devient noir, celui-ci n'est pas du tout noir, en réalité. Si l'on regarde attentivement, on voit tomber la pluie.